les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique.
Comment les philosophes que nous considérons aujourd'hui à juste titre comme les plus grands du XXe siècle jugeaient-ils l'apport théorique de leur maître? Quel bilan en tiraient-ils? Cette émission nous permet de prendre un contact vivant avec les célébrités du panthéon philosophique qui marquent encore notre modernité.
Le journal Parler présente Des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche.
Au cours de cette émission, vous entendrez les philosophes Maurice Merleau-Ponty, Jean Hippolyte et Jean Beaufray, qui vous parleront sur le sujet suivant, la philosophie française de 1900 à 1950. La conversation est dirigée par Pierre Desgroupes.
Maurice Merleau-Ponty, professeur de psychologie à la Sorbonne, compagnon de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir à la direction des temps modernes, Jean Hippolyte, également professeur à la Sorbonne, bien connu par ses travaux sur Hegel, Jean Beaufray, enfin, spécialiste de Heidegger et de la philosophie existentielle, ces trois jeunes maîtres de la philosophie française ont eu l'extrême gentillesse de se prêter au petit jeu des bilans. Jeu passionnant, certes, mais particulièrement difficile ce soir, puisqu'il s'agit de dresser le bilan de 50 ans de philosophie en France.
Pour commencer, je vais demander à Jean Beaufray de dessiner à grands traits, parce que c'est une chose, je crois, assez difficile à faire, une situation en état de la philosophie, et spécialement de la philosophie française, aux environs de 1900. Je crois que c'est la meilleure base de départ que nous puissions trouver. Beaufray.
Eh bien, c'est en effet très difficile de faire un bilan exhaustif de la philosophie française en 1900, mais dès le début, je voudrais proposer un décalage de date. Il me semble que la date dont il faudrait partir n'est peut-être pas la date de 1900, mais plutôt celle de 1889, qui marque la soutenance par Bergson de sa thèse sur les données immédiates de la conscience. Cette thèse, soutenue donc en 89, c'est-à-dire 10 années avant le début du siècle, est certainement celle qui contenait le plus de facteurs susceptibles d'agir sur l'avenir par la rupture qu'elle marquait avec l'état de la philosophie qui l'avait précédée. Si l'on veut caractériser en un mot cette rupture, on peut dire que dans sa thèse de 89, Bergson prenait très énergiquement position contre toutes les formes du scientisme qui liaient plus ou moins à l'utilitarisme anglo-saxon et à des noms tels que ceux de Taine en France, peut-être bien aussi de Renan, marquaient la dominante de la deuxième moitié du 19e siècle.
Par conséquent, on peut considérer que le siècle, au point de vue philosophique, naît sous le signe de Bergson et naît aussi sous le signe d'un retour, ou plutôt d'un retour à quelque chose de plus spontané, de moins rigide, de moins sûr de soi aussi, peut-être que les idées scientifiques qui avaient été développées au cours du 19e siècle. Merleau-Ponty.
Oui, c'était d'ailleurs le titre de la thèse de Bergson, Retour, disait-il, aux données immédiates de la conscience.
Alors je crois que Bergson est un philosophe qui a exercé, peut-être d'une façon invisible, mais d'une façon en tout cas certaine, une influence incontestable jusque dans le public même le plus large, ne serait-ce que par l'intermédiaire de la littérature, peut-être même d'autres formes d'expression artistique. Comment, d'après vous, peut-on essayer de qualifier, de définir cette influence bergsonienne?
Eh bien, d'abord comme un rappel énergique à toutes les choses dont la science ne parle jamais et dont les hommes vivent. Par exemple, le livre de 1889 dont nous parlions invitait le lecteur à retrouver, par retour vers lui-même, à retrouver le temps. Alors que la science, selon Bergson, ne nous donne pas une idée rigoureuse du temps, le suppose toujours connu, c'est en nous consultant nous-mêmes que nous pouvons retrouver la durée, comme il disait. Et avec elle, le changement et la création incessant, et par conséquent la liberté. Il est hors de doute que l'influence de Bergson sur un homme comme Peggy s'est exercée par là, par ce biais.
Oui. À coup sûr, n'est-ce pas? Et même l'idée fondamentale de Bergson, que le temps est créateur ou qu'il n'est rien, domine toute notre époque, n'est-ce pas? Tout le sentiment que nous avons d'une perpétuelle invention et d'une imprévisibilité du destin humain se rattache sûrement à l'une des intuitions fondamentales de Bergson.
Je m'excuse d'interrompre et de vous poser les questions sous une forme un peu grossière. Est-ce que l'on peut dire, selon vous, que le bergsonisme a correspondu à une sorte de réaction, disons, spiritualiste contre ce qui pouvait apparaître comme les dernières formes du rationalisme au XIXe siècle?
Ah, moi, je ne dirais pas cela. Je ne dirais pas cela, en tout cas sous la forme où vous le dites. Naturellement, un certain nombre de journalistes ou même de philosophes patentés ont pris Bergson comme un ennemi de l'intelligence et comme un ennemi de la raison. Mais quand Bergson a été invité à s'expliquer là-dessus, il l'a fait par exemple dans l'introduction à la métaphysique, il a toujours dit que ce qu'il voulait, c'était une raison élargie et non pas du tout la destruction de la raison. Et sur ce point, justement, une des choses que Bergson a le premier nommé et qui était destinée à demeurer, c'est une sorte de philosophie au contact des faits tels qu'ils nous sont révélés par la psychologie ou même par la sociologie ou par l'histoire. Il a lui-même insisté là-dessus dans ce petit livre « Introduction à la métaphysique ». De sorte que l'épithète même d'anti-intellectualiste qu'on lui appliquait très souvent et qui servait d'argument contre lui dans les milieux officiels, je crois qu'il ne l'aurait certainement pas accepté.
Je comprends, mais alors je pose la question sous une autre forme. Est-ce qu'on peut considérer que Bergson représente un certain retour de la philosophie vers le réel?
Oui, assurément.
Et est-ce qu'il vous semble que ce retour de la philosophie vers le réel caractérise toute la philosophie de cette première moitié du XXe siècle, Jean Beaufray?
C'est certainement dans ce sens qu'il y aurait lieu de marquer l'orientation de la philosophie, et je crois qu'au cours de notre entretien, cette idée s'étoffera. Mais je voudrais revenir sur un point de ce qu'a dit Merleau-Ponty. Si je suis d'accord avec lui pour remarquer que ce n'est que très grossièrement que l'on peut taxer le bergsonisme d'anti-intellectualisme, il faut quand même souligner, peut-être chez Bergson, que l'intelligence n'intervient jamais chez lui qu'en liaison et comme instrument, pour ainsi dire, d'autre chose que l'intelligence et que, dans l'évolution créatrice, il nommera l'élan vital. C'est ce qui marquera, par exemple, l'opposition entre la pensée de Bergson et celle d'un de ses contemporains, qui va avoir une non moins grande importance au cours de ce siècle, Léon Braunschweig, pour qui nous avons affaire à une intelligence se suffisant, pour ainsi dire, à elle-même et n'ayant pas à chercher sa source dans l'infra-intellectuel.
Je crois Jean-Hippolyte. Que je voudrais ajouter un mot à propos de ce que vient de dire Beaufray tout à l'heure. C'est qu'en effet, il y a une idée bergsonienne assez importante qui apparaîtra dans les deux sources. L'impossibilité de se satisfaire avec la raison et la nécessité de faire appel pour concevoir l'action humaine, soit à ce qui est au-dessous de la raison, les formes de la vie, soit à ce qui est au-dessus de la raison. La raison n'est pas capable de se constituer pour guider la conduite humaine.
Oui, je crois que là...
Il y a là un point très important, malgré tout, qui est très frappant dans la dernière œuvre de Bergson, n'est-ce pas? On ne peut pas diriger la conduite humaine en se fiant uniquement à la raison.
Oui, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure lorsque j'ai posé ma question qui a provoqué les critiques de Merleau-Ponty. Je me demande, est-ce que vous ne pensez pas qu'on puisse rattacher cette position de Bergson à un mouvement beaucoup plus vaste qui pourrait caractériser tout un courant, le plus important peut-être de la philosophie moderne, qui est, il faut bien lâcher le mot, la psychanalyse? Merleau-Ponty, qui est psychologue, va peut-être répondre.
Eh bien, je ne connais pour ma part aucune déclaration importante de Bergson sur la psychanalyse. Il aurait pourtant pu en parler. Il a vécu assez longtemps pour en parler. Et je ne crois pas qu'il ait eu de sympathie pour la psychanalyse dans la mesure où il l'a connue.
Il en a parlé.
Il en a parlé?
Il en a parlé dans l'article sur, autant que je me souvienne, dans l'article sur la fausse reconnaissance,
oui.
Où il a montré que les interprétations de la psychanalyse n'étaient pas absolument opposées aux interprétations qu'il donnait de l'action humaine.
Et dans tous les cas, un philosophe mort, un psychologue mort aujourd'hui, comme son nom est Essertier, a dans une bibliographie qu'il a publiée il y a déjà 20 ou 30 ans, souligné précisément dans l'introduction à ce petit livre qui s'appelle Psychologie et sociologie, a souligné les affinités entre le bergsonisme, cette théorie du moi fondamental, du moi profond que l'on trouve chez Bergson, et la psychanalyse. Il semble qu'il y ait chez Bergson et chez Freud le même effort pour retrouver en psychologie une dimension en profondeur par opposition à la psychologie en surface de l'associationnisme dominant dans la deuxième partie du XIXe siècle.
Mais je ne suis pas d'accord quand même avec toi pour assimiler le moi profond de Bergson, qui par ailleurs donnera naissance à certaines formes d'existentialisme chrétien ou certaines formes de la philosophie de l'esprit, pour assimiler ce moi original à ce que Freud appelle le soi, n'est-ce pas, enfin d'Avès. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on peut faire une comparaison, mais je ne suis quand même pas d'accord. Mais je me permets de revenir sur le point sur lequel j'insistais tout à l'heure, parce que j'y vois une crise fondamentale de la pensée actuelle. Cette impuissance où est Bergson de voir dans la raison autre chose qu'un rôle régulateur, comme il le dit lui-même, c'est-à-dire comme quelque chose qui subit l'action qui vient d'en bas, ou qui retraduit intellectuellement l'aspiration vers en haut. De telle sorte que cette crise de la raison pour la conduite de l'homme, cette impossibilité de nous référer à une transcendance rationnelle, à une vérité absolue, se trouve posée dès l'œuvre bergsonienne.
Oui, de toute façon, si je comprends bien, de quelque côté qu'on se tourne, on trouve tout de même que la philosophie française, dans ses 50 années, s'est placée sous le signe que j'appelais tout à l'heure le signe d'un retour aux sources, je veux dire d'un retour au réel d'une part, comme le signalait tout à l'heure Merleau-Ponty, et d'autre part peut-être à une certaine profondeur de la vie psychologique, de la vie consciente, de la vie psychique, qui semblait avoir été délaissée par la philosophie du XIXe siècle. Mais alors à ce moment-là, je voudrais maintenant vous poser une question que j'imagine tous les auditeurs ont au bout de la langue. Comment allons-nous situer, pour en venir à une période plus moderne, l'existentialisme ? Je crois que Jean Beaufray, qui a fait de multiples conférences devant un large public sur l'existentialisme, pourra peut-être intervenir.
Eh bien, il faudrait faire un saut à pieds joints pour atteindre l'existentialisme à partir du Bergson dont nous parlons. Et il faudrait évidemment mettre entre parenthèses des aspects entiers de la philosophie française qui se développe entre 1900 et nos jours, parce que l'existentialisme, c'est une date certainement récente, et c'est pourquoi avant d'aborder cette question, je voudrais que l'on dise quelques mots de certains philosophes dont nous n'avons pas parlé encore, et des formes de rationalisme qui ont pu s'opposer au bergsonisme au fur et à mesure que le bergsonisme continue.
Donc je suis allé trop vite, alors oui. Nous revenons en arrière. Jean-Hippolyte.
Eh bien, je pense qu'au moment même où nous venions de poser chez Bergson une sorte de crise de la raison, il importait de voir que le rationalisme s'assouplissait pour s'adapter à cette idée d'un temps créateur et tenir compte du réel.
On avait donc une sorte de réaction du rationalisme aux attaques
de Bergson. C'est ça,
des
réactions qui, en quelque sorte, tenaient compte de la nécessité des critiques bergsoniennes ou de la nécessité de s'adapter, qui était celle de l'époque, de s'adapter à la réalité historique.
Alors, pouvons-nous mettre des noms ?
Brunswick et Alain. Bon, deux noms qui me paraissent très importants dans ce mouvement du rationalisme. Par exemple, le fait que Brunswick soit resté rationaliste, mais ait cherché son inspiration dans une histoire des idées. Histoire surtout des idées mathématiques, histoire des idées physiques, histoire des idées dans lesquelles ce ne sont pas les idées elles-mêmes qui se déterminent par le mouvement dialectique des idées, mais où ces idées sont liées à des contingences historiques, tout en ayant cependant un certain sens. C'est en d'autres termes à l'histoire des idées que Brunswick demande son inspiration. Et ça a eu sur beaucoup des auditeurs de Brunswick. Nous avons tous été ses élèves, je crois. Ça a eu certainement beaucoup d'influence.
Oui, je crois que vous avez prononcé aussi un autre nom qui est celui d'Alain, et il me semble qu'il doit avoir une très grande importance, ne serait-ce que par l'influence qu'a eu Alain, lui aussi, comme professeur. Il a formé des générations de philosophes après lui, d'intellectuels, même d'écrivains, même des hommes de théâtre, et beaucoup de gens de la génération des hommes, des intellectuels qui ont aujourd'hui 40 ou 45 ans, ont subi d'une façon ou de l'autre l'influence d'Alain. Et cette influence, comment peut-on la définir selon vous? Je vais poser la question à Jean Beaufray, je crois qu'il est le successeur en Henri IV d'Alain précisément.
Définir l'influence d'Alain serait bien difficile, car il intervenait certainement dans son influence, la personnalité même d'Alain, le charme de cette personnalité, son talent. Il est certain que de tous les philosophes de cette époque, Alain a été celui qui a eu le plus entièrement les qualités de l'homme de lettres. Et cette influence s'est exercée dans les sens, à mon avis, les plus divers, car si d'une part, ce qui frappe chez Alain, c'est la fidélité à des positions rationalistes, d'un rationalisme peut-être moins assoupli que celui de Braunschweig, car par exemple Alain n'a jamais caché ses sympathies pour une forme plus carrée de rationalisme comme celui de Hamelin. Mais indépendamment de cette fidélité au rationalisme, il y avait chez Alain une perpétuelle curiosité d'esprit qui a fait, je crois, que c'est à lui peut-être qu'il faut faire remonter quelque chose comme une introduction dans l'esprit des philosophes français d'un intérêt pour un philosophe qu'ils avaient très peu connu jusque-là, je crois, Hegel, et aussi pour le marxisme. Je suis très frappé de voir que c'est dans les cours d'Alain qu'ont été organisées pour la première fois des tentatives de voir clair dans cette question de Hegel et de Marx, et que s'est développée pour la première fois cette idée peut-être que la philosophie ne constituait pas un monde clos sur elle-même, mais n'avait la plénitude de son sens que dans la mesure où elle était liée à toutes les formes de l'histoire et de la vie.
Merleau-Ponty.
Oui, je suis absolument de cet avis. Il y avait chez Alain d'un côté une sagesse qu'il enseignait comme il enseignait tout ce qu'il avait dans l'esprit, bien entendu. Cette sagesse, par exemple, dans l'ordre pratique et politique, conduisait à des positions très définies, très arrêtées. Et il y avait, d'autre part, une sympathie entière, absolue, pour tout ce qu'on peut appeler la grande philosophie, y compris, et au premier rang, Hegel, y compris aussi Auguste Comte, qui était en apparence un esprit très opposé à Alain, et qu'en réalité, Alain a fait connaître mieux que personne. De sorte que son influence est double. Il y avait à la fois cette sorte d'éclair de jugement qui était toujours présent, et qui portait sur les événements du jour aussi bien que sur le passé. Il y avait d'autre part toute cette grande tradition de culture qu'il reprenait et qu'il livrait à ses élèves.
Maintenant, je crois qu'il y a lieu d'insister, tu as parlé d'un rationalisme carré, c'est vrai. Il faudrait aussi parler d'un rationalisme très avide de se tenir en contact avec le réel. Je crois que ce qui faisait l'influence profonde d'Alain sur ses élèves, c'était d'aller toujours chercher l'idée dans l'expérience. De ne pas vouloir apprendre l'idée comme telle, mais d'aller toujours la chercher au cœur même du réel, et de montrer comment elle se découvrait dans le réel.
Nous sommes donc toujours dans la même direction, d'une part d'un élargissement de la recherche et du travail philosophique, et d'une sorte de fidélité au réel et à l'expérience. Alors là, je voudrais maintenant vous poser deux questions, vous prononcez deux noms qui ont été prononcés. Tout à l'heure, j'ai parlé d'existentialisme, Beaufray a parlé de marxisme, je crois qu'il faudrait que maintenant, là, nous fassions le point et nous arrivons peut-être à l'époque contemporaine la plus vivante, la plus bousculée même dans la philosophie. Jean Beaufray. L'existentialisme, vous avez les auditeurs entendre prononcer le mot existentialisme plusieurs fois par jour. Il est appliqué au Cap de Saint-Germain-des-Prés, il est appliqué au Bebop. Toutefois, c'est ici une réunion de philosophes et je crois qu'il faudrait peut-être en profiter justement pour faire une remise au point qui est nécessaire. Qu'est-ce que l'existentialisme?
Et à répondre à la question « qu'est-ce que l'existentialisme ?» serait peut-être aussi difficile à un philosophe que de répondre à la question « qu'est-ce que la philosophie ?» Mais peut-être pourrait-on cependant essayer de tirer au clair comment il se fait que le mot « existentialisme » a ce succès et pourquoi il revient à chaque instant lorsqu'on s'efforce de qualifier des aspects de la réflexion philosophique contemporaine. Je vais demander à Merleau-Ponty et à Hippolyte d'être très attentifs et de m'interrompre dès que je dirai quelque chose qui leur paraîtra contestable. Je crois que l'existentialisme vient d'une volonté très arrêtée de ne pas se suffire en philosophie de constructions purement conceptuelles, car être philosophe à la manière classique c'est penser en s'étant d'abord séparé d'un monde dont on s'est, pour ainsi dire, donné d'une manière tout à fait arbitraire l'autorisation de s'absenter. Existentialiste ou existentialisme désignera une philosophie qui ne peut pas se donner ainsi licence de s'absenter du monde et qui par conséquent ne pourra jamais poser des questions autrement que par référence, comme on dit parfois, à l'homme en situation.
Merleau-Ponty. Oui, je trouve la définition tout à fait juste. Et pour donner un exemple qui, je crois, matérialise la nouveauté de cette philosophie, ou enfin qui la fasse sentir vivement, je prendrai l'exemple suivant. Il y a un problème qui est depuis toujours un problème philosophique, mais qui n'a paru sous une forme explicite qu'avec les phénoménologues et avec les existentialistes, et qui est le problème d'autrui. Voilà un problème dont, par exemple, Bergson n'a, que je sache, jamais dit un mot. Un problème dont Brunswick n'a jamais dit un mot. Pour Alain, ce serait beaucoup moins sûr. Alain est, à certains égards, beaucoup plus près des problèmes de situation que les deux autres philosophes que nous venons de nommer. Mais enfin, voilà un problème qui apparaît en pleine lumière dans une œuvre de Husserl, de l'allemand Husserl, publiée en français, d'ailleurs, les Méditations cartésiennes, et qui tient une place de premier ordre dans l'œuvre de Sartre, comme il tient une place de premier ordre dans l'œuvre de Heidegger.
Ou dans l'œuvre de Gabriel Marcel, du côté de l'existentialisme chrétien, par exemple.
Eh bien, je m'excuse, mais la montre tourne, nous allons être amenés à une conclusion. Pour conclure, je voudrais vous poser une question. Peut-être, d'ailleurs, ce débat y a-t-il déjà d'avance répondu. Est-ce qu'il vous semble que la notion de philosophe, que le rôle du philosophe a évolué au cours de ces 50 années? Merleau-Ponty ou Jean Beaufret? Je vois que c'est une question qui évidemment est très grave, et c'est pourquoi vous hésitez à répondre. Je m'explique. Un certain nombre de branches qui faisaient partie de la philosophie ont eu tendance à devenir autonomes. Je pense à toutes les activités qui se rapportent à la recherche psychologique, je pense aussi à la sociologie. Est-ce qu'il vous semble que le rôle du philosophe complet, du philosophe pur, en soit diminué? Hippolyte.
Il me semble que ce que nous pouvons tirer de l'expérience des 50 dernières années, et qui concorde avec ce que tu disais tout à l'heure, enfin ce que Merleau-Ponty disait tout à l'heure, ou Beaufret, l'existentialisme, c'est l'impossibilité d'un système pensant. L'impossibilité de refaire aujourd'hui un système de philosophie, et la nécessité de situer toujours l'homme dans le monde par rapport même à des projets qui dépassent l'époque actuelle. L'impossibilité, par conséquent, d'un tel système de philosophie nous conduit aussi au morcellement des problèmes particuliers, n'est-ce pas, psychologie, sociologie, et à l'impossibilité pourtant de ne pas essayer de penser l'homme total en situation dans le monde, et par conséquent d'essayer d'utiliser tous les apports de ces sciences qui sont séparées de la philosophie pour arriver à poser le problème du projet total de l'existence de l'homme dans le monde et dans l'histoire,
pour pouvoir en sortir. Merleau-Ponty.
Oui, mais alors là, je vais dire quelque chose que tu n'as pas dit par modestie, Hippolyte, mais qui est la vérité. C'est que cette union du concret et d'un autre côté d'un sens de la destinée de l'homme, cette union des deux problèmes ou des deux motifs se trouve depuis plus de 100 ans dans Hegel. Et que des travaux comme ceux de Jean-Hippolyte, justement, sur Hegel, n'ont pas peu contribué à réveiller en même temps les deux soucis et les deux problèmes.
Jean Beaufret, je vais vous demander le mot de la fin.
Eh bien, je dirais simplement, pour conclure, puisqu'on me demande de conclure, par conséquent, ce qui est peut-être très ambitieux, parce que conclure signifie arrêter le mouvement en cours.
Disons provisoirement.
Conclure provisoirement. Conclusion apéritive, comme aurait dit Maurice Blondel, dont nous n'avons pas jusque-là cité le nom, mais qui, je crois, est un de ceux qui ont le plus honoré la philosophie française, non seulement à la fin du siècle dernier, mais au cours de ces années qui viennent de s'écouler. Pour conclure, par conséquent, je dirais que je ne crois pas qu'il y ait un déclin de la fonction du philosophe, car le mouvement de toute la société contemporaine vers la philosophie semble déposer en sens inverse. Jamais, je crois, la philosophie, malgré son incapacité à répondre par des systèmes aux questions des hommes, n'a été l'objet d'un appel plus ardent. Évidemment, la position de philosophe est peut-être plus inconfortable si le centre d'intérêt de la pensée du philosophe, c'est l'homme en situation. Car s'il est en situation, en un sens, il ne se différencie peut-être pas beaucoup de tous les hommes qui sont en situation. Il réfléchit pour son propre compte, il donne l'exemple de la réflexion, et si dans son développement, dans le développement de sa pensée, il cherche à obtenir certains résultats. Ces résultats sont toujours plus précaires à ses yeux même que ceux qu'obtenait par exemple un Spinoza. Peut-être peut-on dire qu'il a besoin actuellement d'un meilleur courage et que la notion d'homme aux yeux de la philosophie contemporaine comporte des incertitudes et des ambiguïtés qu'elle ne comportait pas aux yeux de la philosophie classique.
Vous venez d'entendre la philosophie française de 1900 à 1950 par Maurice Merleau-Ponty, Jean Hippolyte, Jean Beaufray et Pierre Desgroupes.
Le journal parlé vous a présenté Des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 11 février 1950. After you get what you want, you don't want it. If I gave you the moon, you'd grow tired of it soon. You're like a baby. You want what you want when you want it. But after you are presented with what you want, you're discontented. You're always wishing and wanting for something. When you get what you want, you don't want what you get. And though I sit upon your knee, you grow tired of me. 'Cause after you get what you want, you don't want what you wanted at all. Changeable, you've got a changeable nature. Always, always changing your mind. There's a longing in your eye, hard to satisfy. And here's a reason why. 'Cause after you get what you want, you don't want it. If I gave you the moon, you'd grow tired of it soon. You're like a baby. You want what you want when you want it. But after you are presented with what you want, you're discontented. You're always wishing and wanting for something. When you get what you want, you don't want what you get. And though I sit upon your knee, you grow tired of me. 'Cause after you get what you want, you don't want what you wanted at all. Mean to make you blue, but you need a talking to. 'Cause after you get what you want, you don't want what you wanted at all. I know you.